Luc, vers Clermont-Lérault. Donc, merci à France Inter pour la qualité de ces émissions, pour tous ces débats qui nous permettent de progresser. Par contre, c'est vrai que je suis surpris par la violence des fois des messages, des gens qui ne supportent pas la musique, des fois la publicité qui permet de financer le service public. Tout à l'heure, la dame qui parlait des éleveurs, c'est vrai que la violence aussi, elle était dans les mots qu'elle utilisait parce que tous les éleveurs ne sont pas des monstres. Voilà, moi je suis vigneron en agriculture biologique depuis 14 ans et quand je traite mes vignes, je suis obligé d'utiliser l'appareil de traitement comme ceux qui sont en traditionnel. Alors que je traite en agriculture biologique. Et donc les gens qui passent des fois me font des signes comme quoi je suis un pollueur. Alors que j'essaie de faire au mieux, mais de traiter bien sûr en agriculture biologique. Alors si les gens des fois discutaient, observaient que mes vignes ne sont pas désherbées chimiquement, qu'elles ne sont pas vert foncé, voilà, ça permettrait des fois d'éviter toute cette violence qui n'est le fait que d'un manque de connaissances. Voilà. Merci à vous et bisous.
Bonjour l'équipe de La Terre au Carré, Colette de Perpignan. J'ai écouté votre émission là sur l'exploitation des fonds marins. Alors, que la science soit là pour chercher des réponses à toutes les questions posées, comme l'a dit le scientifique sur votre plateau, pourquoi pas. Mais bon, on a un peu l'impression que les questions qui se posent sont surtout amenées par ceux qui y ont un intérêt sonnant et trébuchant. Hein. Alors, est-ce que c'est le rôle de la science? Faut quand même se poser la question, quoi. D'ailleurs, le scientifique en question, il ne semblait pas à l'aise avec la contradiction science au service des industriels. Alors bon, le monde de demain, c'est donc des centrales nucléaires sur la Terre, des exploitations minières sous la mer. Alors je dois dire, moi, que c'est pas comme ça que je voyais le remède à l'inaction climatique. Allez, courage.
Salut La Terre au Carré, Patrick de Néon-sur-Creuse dans l'Indre.
Salut La Terre au Carré, voici des nouvelles de la planète Rebelote. Je voulais réagir à l'actualité terrestre. C'est amusant ici, nous sommes en pleine élection de notre grand sioux planétaire. Notre grand chef sortant, qui apprécie l'environnement comme nous tous, c'est-à-dire pas du tout, n'a pas encore déposé sa candidature. Pour l'instant, il reste au frais. Il faut dire que sur Rebelote, ça chauffe. Au début du printemps, il fait déjà 50 à l'ombre. Les autres candidats et candidates s'agitent, se chiffonnent, car il n'y a plus grand-chose à débattre. Heureusement, sur Rebelote, il existe maintenant un avantage auquel vous n'avez pas encore pensé. Nous pouvons faire de la soupe en plaçant une cocotte au soleil. En quelques minutes, les carottes sont cuites. La campagne pour l'élection du Grand Sioux porte principalement sur la forme des cocottes. Certains engagent de longs débats télévisés en faveur de cocottes rondes. D'autres veulent des cocottes triangulaires. Les plus malins souhaitent des cocottes au carré, qui sembleraient être les plus performantes. La campagne du Grand Sioux s'avère passionnante avec une grande vision du futur. Je vous invite donc à voter pour des cocottes au carré, le programme le plus ambitieux de l'univers. A bientôt, chers amis terriens, pour de prochaines aventures intergalactiques. Il est minuit moins 100 secondes avant d'avaler la soupe empoisonnée. Merci à toute l'équipe de La Terre au Carré, l'émission la plus diffusée dans la Voie lactée.
Mais oui, au moins, merci Patrick pour la suite de votre saga sur la planète Rebelote et surtout donnez-nous le lien pour acheter cette fameuse cocotte au carré, nous sommes très preneurs. Et puis en attendant, le répondeur pour vos messages, vos humeurs, vos réactions et vos créations au 01 56 40 45 45. On les appelle les platistes, ce sont ces personnes qui affirment aujourd'hui sans sourciller que notre planète serait aussi plate qu'une crêpe Suzette. Ce mythe de la Terre plate semble avoir la vie dure et étonnamment, il continue de rencontrer pas mal de succès. Un mythe qui ne serait pas nouveau et dont certains disent qu'il remonterait même aux âges sombres du Moyen-Âge. Mais dans un livre qui paraît aux belles lettres, deux professeurs d'histoire et des sciences physiques s'intéressent justement à l'histoire de cette théorie en montrant quelles ont été au fil du temps les représentations qui ont entouré la Terre, quelle a été l'histoire de ce mythe de la Terre plate et pourquoi il perdure. Une histoire qu'il est intéressant d'aborder dans un contexte où la circulation des contre-vérités est particulièrement d'actualité. Ce livre s'appelle « Terre plate, généalogie d'une idée fausse » et c'est vous qui signez cet ouvrage, Violaine Giacomotto-Chara et Sylvie Noni. Bonjour.
Bonjour Mathieu.
À vous deux. Violaine Giacomotto-Chara, bonjour. Vous êtes en duplex des studios de France Bleu Gironde à Bordeaux. Vous êtes professeur de littérature de la Renaissance. Vous enseignez aussi l'histoire des savoirs à l'université Bordeaux-Montaigne. Et puis Sylvie Noni avec nous en studio. Vous êtes vous chercheuse en histoire et philosophie des sciences au sein du laboratoire Sphère, sciences, philosophie, histoire à Paris Diderot. Et vous êtes même animatrice d'une émission écolo, c'est vrai ?
Oui, climat de lutte sur la clé des ondes.
Ça, c'est le nom de la radio.
Voilà.
Qui se trouve à Bordeaux.
La clé des ondes, c'est la radio. Oui, sur 90. 9.10 à Bordeaux.
Alors pourquoi ce mythe de la Terre plate à la vie dure? Eh bien c'est ce qu'on va voir ensemble dans un instant avec les messages et les questions qui arrivent sur la page de la Terre au carré, les réseaux sociaux bien sûr et l'appli France Inter pour nous laisser vos notes vocales. Bonjour Camille Cronier.
Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde.
Qu'est-ce qui va se passer à 14h30 dans Camille Passauvert?
Je vous parle de l'atlas des glaciers de montagne, alors pas pour donner leur position, hein, ça on sait, mais la quantité de glace, donc d'eau qu'il renferme, c'est nouveau.
Voilà, et c'est pour le sommaire de cette émission réalisée par Valérie Ayestaraï, préparée par Colin Gruel avec à la technique Sofiane Aktib.
Mathieu Vidard, la Terre au carré. Sur France Inter.
Le 22 février, au milieu du désert californien, Mike Hughes se tue dans la fusée qu'il a fabriquée dans son garage. Cet Américain de 64 ans voulait prouver que la Terre était plate. Comme lui, 16% des Américains pensent que la Terre est plate. Au Brésil, ils sont 7%. L'entrepreneur Anderson Neves est lui aussi interplatiste.
Aujourd'hui, au Brésil, nous parlons de plus de 11 millions de personnes qui ont déjà compris que la Terre est plate. Et ces gens, pas tous, mais la plupart d'entre eux, font des recherches, s'interrogent, parce que nous ne voulons pas vivre dans le mensonge. Quand on voit l'horizon, quand on va à la plage, lorsqu'on va au sommet d'une montagne, on voit qu'il est toujours plat, qu'il a toujours le même niveau, qu'il ne fait jamais une courbe comme il le montre dans les livres de science.
Voilà, c'est un reportage sur France 2 en 2020 et ça vous fait sourire, hein, Sylvie Elnoni. Oui, c'est vrai qu'on l'entendait, certains quand même vont assez loin pour essayer de prouver que la Terre reste plate, oui. Comme cet Américain qui a construit quand même sa fusée et qui en est mort.
Voilà, hein. La bêtise, ça montre ouais. Ça.
Mais qu'est-ce qu'il y a? Oui, parce que c'est vrai qu'on a envie de dire, voilà, c'est juste un sombre crétin, mais on faut pas s'arrêter à ça,
non,
quand même.
Bien
qu'est-ce,
sûr.
Qu'est-ce qu'il y a derrière cette sorte de bêtise, au fond, cette croyance?
Oui, cette croyance, comme beaucoup de croyances aujourd'hui, il y a effectivement un effet d'entraînement peut-être entre des gens, il y a des chaînes YouTube, on a vu un reportage sur Arte qui nous a parlé en détail de ces platistes et de leur folie collective, mais je ne pense pas que ce soit un phénomène si important que ça en France, en tous les cas. Mm-hmm. En tous les cas, pas aussi important que ce qu'une enquête faite par Conspiracy Watch avait proposé en 2018, je crois. Et donc,
il disait que 10% des Français...
Oui,
pourrait penser que la Terre est plate.
Pourrait. Alors les résultats de ce sondage sont un peu sujets à controverse puisqu'il y a plus de gens qui, dans un premier temps, on leur demandait s'ils étaient au courant de telle ou telle controverse.
Oui.
Et il y a plus de gens qui donnent leur avis sur le mythe de la Terre plate que de gens qui disaient le connaître dans la première question du sondage. Donc, on peut prendre avec des pincettes le résultat de cette enquête.
Violaine Giacomo-Tochara, on voyait quand même dans cet extrait, aux États-Unis, au Brésil, là on trouve beaucoup plus de croyances hein, autour de ce mythe quand même.
Oui, mais c'est pas forcément très compréhensible. Enfin, effectivement, alors aux États-Unis et au Brésil, on peut se dire que c'est lié à un fondamentalisme religieux qui est peut-être certainement plus présent qu'en France, où cette influence-là est moins importante. Ce qui est frappant, et on touche finalement au cœur du sujet auquel on s'est intéressé aussi, c'est que les platistes d'aujourd'hui s'appuient sur des textes religieux. Alors, côté... chrétiens, catholiques et protestants sur la Bible, et la Bible ne dit pas que la Terre est plate. Donc c'est difficile de savoir d'où ça vient et de faire la part entre ce qui est une simple ignorance scientifique et puis un vrai militantisme. Et je crois que dans les chiffres un peu trompeurs, il y a les deux. Il y a des gens qui sont juste finalement ignorants ou qui ne se sont pas posé la question. Et puis ce qu'on voit, c'est qu'il y en a qui sont militants de la Terre plate.
Ouais.
Mais au point de construire des fusées.
C'est vrai. Mais il y a d'autres ressorts qui seraient intéressants d'ailleurs d'explorer, comme ceux de la psychologie sociale, parce que rien n'arrive à convaincre finalement ces personnes, même lorsqu'on leur montre des photos de la Terre vue de l'espace, par exemple. Donc il y a de vraies croyances, des vraies convictions. Alors c'est pas le propos de votre livre, parce qu'il faut être clair dès le départ. Vous, votre idée, c'était de remonter le cours de l'histoire et de revenir sur une idée reçue, que justement cette idée de Terre plate serait née au Moyen-Âge, et le propos du livre, c'est dire, ben non, tout ça a été aussi un peu fabriqué, au fond, Sylvie Nonier.
Voilà, et c'est une fake news, celle-là aussi, mais ouais. C'est une fake news qui est portée par l'élite de la nation, par des savants, par des encyclopédies, des manuels scolaires encore aujourd'hui. Et c'est une fake news qui a à peu près 250 ans, et nous ne sommes pas les premières à nous y être attaquées. Il y avait, à la fin du XXe siècle, un historien médiéviste américain qui s'appelle Russell, qui a écrit un livre qui s'appelle « L'invention de la Terre plate ». qui avait déjà essayé de débusquer cette fake news, cette contre-vérité. Non, au Moyen-Âge, on ne pensait pas que la Terre était plate. Et en fait, si l'on remonte dans l'Antiquité, on peut situer à peu près vers le 4e ou 5e siècle avant Jésus-Christ, le moment où la communauté des savants a la conviction que la Terre est sphérique, et cette conviction n'a pas été oubliée par le Moyen-Âge, elle a continué d'être transmise pendant tous ces siècles.
D'où ça vient du coup cette idée que ça vient ça date du Moyen-Âge ?
Alors, c'est l'objet de la deuxième partie de notre ouvrage. Dans un premier temps, donc, nous avons établi avec des textes, avec des sources, le fait que non, on ne croyait pas que la Terre était plate. Et puis, dans un deuxième temps, on a essayé effectivement de répondre à la question, mais d'où ça vient ?
Ouais.
Et d'où ça vient ? Ça vient à peu près du siècle des Lumières, où on a une volonté farouche de s'attaquer à ce qu'on appelle l'obscurantisme religieux, à ce qu'on appelle les ténèbres apportées par l'Église sur le savoir scientifique, et là où on fait des raccourcis. Alors c'est vrai qu'il y a l'affaire Galilée au XVIIe siècle, où on voit que Galilée s'est opposé à l'Église pour montrer que la Terre était en mouvement, mais c'est un problème scientifique tout à fait différent de celui de la sphéricité de la Terre,
ouais,
qui, elle, est admise et même enseignée par les religieux, par les docteurs de l'Église, et ne fait pas l'objet d'un doute. Alors, il y a peut-être une raison fondamentale à ça, c'est que il est très facile, contrairement à ce que dit l'Américain qui s'est embarqué dans sa fusée, là, de voir que la Terre est sphérique sur Terre, alors qu'il est très difficile de ressentir son mouvement. Et ça a fait l'objet d'un gros problème de physique, d'essayer de comprendre comment le mouvement pouvait, Galilée disait, le mouvement est comme rien, comment le mouvement pouvait, ouais, ne pas être ressenti.
Donc on va revenir sur l'histoire de la fabrication, au fond, de cette fake news, parce qu'il y a deux parties, effectivement. Il y a ce mythe qui aurait été inventé donc, au Moyen-Âge, et cette fake news plutôt issue du siècle des Lumières. Et ça, c'est l'objet, justement, de vos explications. Pourquoi Violaine Giacomotto-Chara, il vous a semblé si important, finalement, de revenir sur cet épisode, au point d'en écrire tout un livre, alors, puisque je rappelle que le sous-titre, c'est « Généalogie d'une idée fausse ».
Justement, Sylvie et moi avons été frappés, quand on s'est rencontrés à l'occasion de colloques, où il était déjà question d'astronomie, de représentation de la Terre, et on a été frappés toutes les deux par la persistance de l'idée fausse d'une croyance du Moyen-Âge en la Terre plate. Et donc, comme Sylvie vient de le dire, le travail en fait, d'enquête historique qui montre ce que savait, ce que croyait le Moyen-Âge, il a été fait par d'autres. Nous, on n'innove pas. On a essayé plutôt de réunir des documents pour faciliter l'accès à ces sources. Mais il y a non seulement les historiens américains, mais en France, on a un collègue spécialiste de géographie médiévale qui a souvent fait des articles pour expliquer qu'on ne croyait pas que la Terre était plate.
Ouais.
Et malgré tous ces travaux, toutes ces dénégations, ce qui est frappant, c'est de voir, alors on le mesure avec nos élèves et avec nos étudiants, que dans la vie quotidienne, y compris des gens qui suivent une formation universitaire, arrivent à la fac, après avoir passé le bac, après avoir fait de la physique, de l'histoire, en disant « Ah, mais au Moyen-Âge, on croyait que la Terre était plate.
Oui. »
Et donc, nous, là, ce qui nous a intéressés, c'est surtout, effectivement, les raisons de cette persistance assez inexplicable du mythe. Donc, on a voulu, effectivement, refaire l'histoire des croyances authentiques, et surtout en essayant de convaincre les gens. Enfin, derrière ça, il y avait une démarche pédagogique qui était aussi de dire allez chercher les sources, elles sont accessibles. Donc même quand on n'est pas historien, même quand on n'est pas archiviste, aujourd'hui, grâce à Internet, on peut aller voir un traité d'astronomie du Moyen-Âge. Donc, prenez l'habitude de vérifier. C'était d'essayer de montrer aux gens la démarche qu'ils pouvaient faire pour aller justement, enfin prendre cette habitude de vérifier, y compris les connaissances supposées historiques, et de remonter aux sources et de vérifier par eux-mêmes.
Allez, on va se retrouver dans un instant pour comprendre justement quelles ont été les thèses qui ont circulé autour de la Terre au cours de l'histoire, et puis qu'est-ce qui a motivé ceux qui ont développé justement cette fake news, ce mythe de la Terre plate. Et on attend bien sûr vos messages et vos questions, franceinter.fr, les réseaux sociaux et les notes vocales sur l'appli mobile France Inter. When I met you, I was just a child, working through the fears of the night. Then you flew over to my side, and then I knew. Something Greater. C'était Parcells.
La Terre au carré. Sur France Inter.
Si la Terre était plate, le Soleil éclairerait toute sa surface en même temps. Quand il ferait jour partout. Et quand il ferait nuit partout. Trouve un ami ou une amie qui vit sur un autre continent et parle-lui par vidéoconférence. Tu verras qu'il n'est pas la même heure chez lui ou chez elle que chez toi. Il est même possible qu'il fasse nuit là-bas et jour chez toi. Ce serait impossible à expliquer si la Terre était plate. Va sur le site internet de la NASA ou de l'Agence spatiale canadienne et regarde des photos de la Terre vues de l'espace. C'est bel et bien une boule qui ressemble beaucoup à un globe terrestre.
Voilà, extrait d'une vidéo qui s'appelle « Vraiment top » diffusée au Canada en 2018 pour bien trouver quelques preuves que la Terre est bien ronde. Et pourtant, elle est plate. C'est le titre de votre livre « Généalogie du nid des fausses hein. ». C'est aux belles lettres. Vilaine Giacomotto-Chara en duplex de Bordeaux et avec nous Sylvie Noni. Est-ce qu'en tant qu'enseignante Sylvie Noni, vous avez été souvent confrontée justement à ce problème des fake news un problème qui a pu vous désarmer d'ailleurs peut-être face à vos élèves?
Alors, des fake news en général, oui, c'est vrai, il y en a plusieurs. Il y en a une pour les professeurs de physique, puisque j'ai enseigné la physique en lycée, qui est récurrente, c'est celle de l'atterrissage d'Apollo sur la Lune est une simulation, elle n'a pas existé, n'a pas eu lieu. Voilà. Ouais. Et puis, cette histoire sur la platitude de la Terre, ce qui est assez terrible, c'est que quand on enseigne la physique, par exemple, pendant dans les années de 2000 à 2010, on a enseigné au lycée, en classe de seconde, dans le premier trimestre, on enseignait la mesure de la circonférence de la Terre par Ératosthène. En fin d'année, on abordait les questions de la gravité avec Galilée puis Newton, ce qui était un autre problème. Et on voyait ressurgir, à l'occasion du débat sur la gravité, mais au fait, c'est Galilée qui a prouvé que la Terre est plate. Alors bon, on va dire, nos élèves ne sont pas blâmables, puisqu'on a même entendu une ministre...
Et plate ou ronde, Galilée ?
Non, les élèves suggérant que Galilée avait... Voilà, donc... Je disais qu'il y avait une ministre, Madame Schiappa, qui a dit la même chose il n'y a pas longtemps.
On peut l'écouter. RMC. On l'a sous le coude, on va vous citer la petite phrase. Ça dure pas longtemps, ça dure 10 secondes.
Ce n'est pas parce que la majorité des personnes pensent que c'est une mauvaise idée que ça l'est. Je vous rappelle que Galilée était tout seul face à la majorité pour dire que la Terre était ronde et qu'elle tournait. Et la majorité pensait qu'elle était plate et statique.
Voilà, Marlène Schiappa, voilà. C'est dans les grandes gueules sur RMC.
Voilà. Statique, oui, mais plate, non, c'est pas vrai. Donc à l'époque, on ne pensait pas que la Terre était plate. On savait qu'elle était ronde depuis l'Antiquité. Et donc il y a une confusion entre les deux problèmes. Et il y a, tout à l'heure, vous disiez, effectivement, nos élèves pouvaient témoigner de ça, mais en enquêtant sur ce que l'on trouve dans les manuels scolaires, dans différents livres, on a compris aussi que c'est pas forcément parce que leurs enseignants leur avaient dit qu'au Moyen-Âge, on croyait que la Terre était plate, que les élèves avaient ça dans la tête, mais qu'il pouvait y avoir des savoirs clandestins, des savoirs infiltrés. Par exemple, on a trouvé plusieurs livres de grammaire de l'école primaire, à l'occasion d'exercices de grammaire. Il faut relier un indicateur temporel au Moyen-Âge à la phrase « on croyait que la Terre était plate ». Ah oui. Donc pour réussir son exercice de conjugaison ou de grammaire, il faut faire cette association-là.
C'est ce que vous appelez des savoirs clandestins.
Voilà, des savoirs infiltrés, des savoirs, oui.
Ouais. Violaine Giacomotto-Chara, vous faites quand même un plaidoyer de l'histoire des sciences dans ce livre. Hein. Vous dites à quel point c'est une discipline qui est difficile, mais qu'il est absolument nécessaire d'enseigner, justement, dans un contexte de fake news. Hein.
Oui, absolument. Et puis, pas que dans un contexte de fake news. Alors, moi, j'ai une particularité en tant qu'enseignante, c'est que je suis au départ enseignante, je suis professeure de littérature et de langue française, mais je suis aussi formée et habilitée à encadrer des recherches en histoire des sciences, et donc j'enseigne à la fois en lettres et en histoire des sciences. Et donc, je m'aperçois que la formation à l'histoire des sciences, elle est capitale pour une formation de l'esprit, de la culture d'abord, et de l'esprit critique en général, mais pas seulement parce que, par exemple, quand on enseigne la littérature des siècles anciens, donc le Moyen-Âge ou la Renaissance, il y a plein d'allusions à des textes médicaux, à des théories astronomiques, à des connaissances scientifiques, et qui sont absolument incompréhensibles pour nos étudiants. Donc ça crée aussi une sorte de... Même, vous voyez, dans des études aussi apparemment éloignées des sciences que la littérature, on a besoin de ces connaissances-là. Et c'est à cette occasion-là que moi, j'ai pu mesurer à quel point nos étudiants, qui pourtant sortent de lycées généraux, où ils ont fait normalement et de l'histoire et de la physique et des maths, sont vraiment ignorants sur des questions absolument fondamentales.
Oui.
Et ça les conduit aussi, du coup, à mal comprendre les théories d'aujourd'hui. Il se trouve que je viens d'une famille de médecins, par ailleurs, donc je m'intéresse beaucoup à l'histoire de la médecine et puis à la médecine d'aujourd'hui. Et je vois bien, pour revenir à la question des fake news contemporaines, à quel point, ou un autre problème qui est le mouvement anti-vax, etc., à quel point, derrière ça, il y a une ignorance en histoire des sciences, et les connaissances d'histoire des sciences permettraient de meilleures connaissances d'histoire des sciences permettraient sûrement vraiment d'éclairer le débat et de résoudre un certain nombre de problèmes.
Allez, on a plein de messages pour vous, Camille.
Oui, Christophe sur l'application France Inter nous écrit qu'il est lui-même enseignant et qu'il entend souvent en salle des profs cette fake news, y compris de la part de certains collègues d'histoire géo, nous dit-il. Et Marie nous écrit, elle, pour savoir qui lisait les traités d'astronomie au Moyen-Âge, et nous demande quid de la majorité non éduquée des populations sylvinoniennes.
Bon, alors, il faut tout de suite répondre à Marine que... Marie, nous ne pouvons pas lui répondre parce qu'effectivement, la majorité non éduquée n'avait pas accès à l'écrit, et que lorsque l'on dit « au Moyen-Âge, on pensait que la Terre était ronde », comme nous l'écrivons, eh bien, nous nous appuyons sur les écrits des personnes qui avaient accès à l'écrit, c'est-à-dire la plupart du temps des savants, des lettrés. Mais on voit que ce savoir est diffusé à la fois dans des traités très savants, mais aussi dans des petits ouvrages qui résument les ouvrages plus savants et qui sont beaucoup plus largement distribués. Donc on a aucune raison de penser que si quelqu'un posait cette question, par exemple, à un religieux un peu lettré de son entourage, il n'aurait pas répondu que la Terre était sphérique, comme tous le savaient et l'apprenaient dans leurs propres écoles de monastères, les écoles de formation.
Mais ce que vous rappelez, c'est qu'on le savait depuis bien longtemps, depuis l'Antiquité.
Voilà. Hein. On le sait depuis bien longtemps, tout simplement parce que ça se voit. Tout le monde a lu Astérix et vu la vigie monter en haut du mât pour pouvoir annoncer le premier l'arrivée de la Terre. Eh bien oui, parce que la Terre étant courbée, sphérique, c'est en montant en haut du mât que l'on voit en premier l'apparition des côtes. Quand on voit une éclipse de Lune et qu'on voit l'ombre projetée de la Terre sur la Lune, eh bien on voit bien qu'elle a la forme d'un disque. Lorsque l'on voyage comme le faisaient les marins et que l'on va sur l'axe nord-sud, on voit bien que les constellations et le lever des constellations n'est pas le même selon la latitude où on se trouve, si on se trouve plus au sud ou plus au nord. Donc toutes ces observations ont abouti à un savoir qui est vraiment étayé, illustré, démontré depuis très longtemps, depuis, je dis, au moins le 4e siècle avant Jésus-Christ. Platon, Aristote pensent que la Terre est sphérique. Ératosthène, au 3e siècle avant Jésus-Christ, mesure la circonférence de la Terre. Et donc, il n'y a aucun doute là-dessus.
Ouais. On évoquera la figure de Christophe Colomb aussi dans quelques minutes. Vous parlez de marin parce qu'il a été instrumentalisé, lui aussi, à sa façon, dans ce débat autour de la Terre plate ou ronde. Comment cette théorie est-elle revenue en force au XXIe siècle? Un petit élément d'explication avec Sébastien Dieguez, qui est chercheur en neurosciences à l'Université de Fribourg.
Il y a un type qui était une sorte de provocateur et présentateur itinérant qui s'appelait Samuel Robotham, qui était aussi un escroc. C'est à lui qu'on doit la première théorisation formelle, on va dire, de la Terre plate. Et il a un livre, L'astronomie zététique, qui est revenu à la mode à la faveur du retour de la Terre plate à partir environ de 2016, en particulier avec l'élection de Donald Trump, le Brexit, etc. Des vidéos qui ont commencé à apparaître pour défendre en fait l'idée de la Terre plate. Je pense que c'est pas vraiment une conviction sincère. C'est plutôt une manière de s'approprier une méthode de dissidence. Il n'y a pas de nouveaux arguments pour la Terre plate. C'est toujours les mêmes qui ont été cette fois-ci mis en image, des fois avec des vidéos très bien faites, et qui à la faveur des algorithmes se sont agrégés en fait à toute une culture complotiste.
Voilà, Sébastien Dieguez. Intéressant cette idée de dissidence, hein, Violaine Giacomotto Charin, hein, parce qu'en fait on la retrouve aussi au fil des siècles. Hein.
Oui et non. Enfin, on la retrouve en tout cas. Enfin, pour la Terre plate, pour parler des siècles anciens, c'est un peu compliqué parce que je ne crois pas qu'il y ait eu de dissidence complotiste à ce sujet. Par contre, ce qu'on retrouve effectivement et qui correspond à cette idée de dissidence, c'est l'idée de s'opposer en fait à un savoir officiel.
Oui, c'est ça. Ouais.
Et je pense que voilà. Alors, Bon, du coup, c'est un peu les savoirs d'occasion qui servent. Hein. On prend ce qui passe sous la main. Donc, en ce moment, effectivement, c'est la Terre plate. Mais c'est vrai que ça, c'est quelque chose d'assez ancien, je crois, qui va avec l'idée que le pouvoir, quel qu'il soit, que ce soit le pouvoir de l'Église, le pouvoir de l'État républicain, le pouvoir des rois, ment au bon peuple. Oui. Et que donc, finalement, la quête d'une vérité alternative est une forme d'opposition politique au nom de la liberté. Et donc, c'est vrai que c'est ça qui peut expliquer aussi les chiffres un peu bizarres qu'évoquait Sylvie et les biais, parce qu'effectivement, il y a des gens pour qui c'est pas du tout une conviction scientifique, mais plus, je pense, un ressort, effectivement, de revendications politiques.
En tout cas, restez avec nous, parce que dans un instant, on va vous révéler le nom de la personnalité qui a alimenté cette fake news, justement. Ce sera dans quelques minutes.
France Inter. La Terre au carré.
Allez, 14h32, Camille Passauvert.
Et je vous parle glacier aujourd'hui. Vous savez, ces masses de glace dans les montagnes qui s'écoulent sous l'effet de leur propre poids. Souvent mis en avant quand on parle réchauffement climatique. Hein, vous avez tous, j'imagine, vu par exemple les images de la célèbre mer de glace dans les Alpes qui se réduit comme peau de chagrin d'année en année. Il y a plus de 200 000 glaciers de montagne dans le monde qu'on sait parfaitement situé grâce aux satellites, mais dont on ne connaissait pas vraiment le volume, la quantité d'eau qu'il renferme, jusqu'à lundi dernier. Lundi, parution d'un atlas des glaciers en 3D, en quelque sorte, piloté par le glaciologue de l'Institut des géosciences de l'environnement à Grenoble, Romain Millan.
Cet atlas des glaciers, il nous a permis de vraiment changer l'image qu'on avait de la forme des glaciers en trois dimensions. Et en fait, ça, c'était extrêmement important pour les projections futures de l'évolution des glaciers, parce que ça permet de déterminer précisément quelle est la glace qui va fondre en premier et celle qui va rester le plus longtemps. Il y a des millions de personnes qui dépendent des ressources en eau qui arrivent de la fonte des glaciers. Donc, quantifier ces masses d'eau pour ces populations, c'est très important pour mieux anticiper les effets du changement climatique.
Autrement dit, tous les éléments pour potentiellement mieux organiser et gérer la ressource en eau sur place, puisque les décideurs en particulier auront une meilleure idée de quand l'échéance approche, hein, dans 50, 70 ou 20 ans. Mauvaise surprise dans les Andes, par exemple.
On a regardé spécifiquement les glaciers qui sont proches de la ville de La Paz. Et donc, pour ces glaciers, on a remarqué qu'en fait, les stocks d'eau étaient 26% plus faibles que ce qu'on avait estimé auparavant. Donc, ce qui a des conséquences directes sur la disponibilité en eau pour boire, mais aussi pour l'agriculture et la production d'électricité.
Un stock d'eau un quart moins grand que ce qu'on pensait jusque-là. Pendant qu'en Himalaya, c'est le contraire. Les volumes sont plus importants, de 37%. Donc, on souffle un petit peu. Alors là, vous allez me demander, enfin, vous vous demandez d'ailleurs peut-être, comment ont-ils réussi, ces chercheurs, à déterminer les quantités de glace? J'ai demandé à un autre des auteurs, Jérémy Mougineau.
La manière la plus simple, c'est d'aller sur les glaciers et de mesurer leur épaisseur. On a fait ça pour quelques milliers de glaciers, sachant qu'il y en a plus de 200 000 dans le monde. Donc, en fait, 1% des glaciers ont des mesures dessus. Et donc, à partir du moment où on se pose la question quelle est la taille de ce réservoir, il a fallu trouver des méthodes qui permettent de faire ça de manière un peu générale, sans avoir à aller sur place.
Alors, je fais durer le suspense un petit peu. Et je précise que c'est pas eux, personnellement, qui sont allés faire les quelques relevés sur quelques milliers de glaciers, hein, c'était dans les archives. Donc, indice, pour continuer le suspense, l'écoulement du glacier est corrélé avec la masse du glacier. Et Mathieu Morlighem, professeur en sciences de la Terre à l'université de Dartmouth aux États-Unis, vous explique quand même le reste.
Les satellites ne peuvent pas voir sous la glace, ne peuvent pas voir cette épaisseur. Donc là, on a utilisé une donnée en plus, qui est quel est le déplacement. On a utilisé, combiné ça avec de la physique, comment la glace se déforme, et on a pu déterminer, ok, si elle se déforme de cette façon, et qu'elle a cette vitesse en surface, l'épaisseur doit être celle-ci.
Et le résultat, après 2 ans de recherche, c'est que l'ensemble des glaciers de montagne recèlent moins d'eau qu'on ne le croyait. Pas cool du tout, donc, pour les populations qui en dépendent, mais d'autres pourraient se dire, à la lecture des prévisions du GIEC sur l'augmentation du niveau des mers, mais trop cool, au contraire, ça va faire moins d'eau qui se déversera au final dans les océans. Sauf que surtout pas.
Le message qu'on ne veut pas faire passer, c'est « on est tranquille, il y a moins de glace à fondre ». Non, non, ça c'est complètement faux, il n'y a aucune révision de ces projections.
Parce qu'en fait, même si tous les glaciers fondaient d'un coup, imaginez les 200 000 fondent d'un coup, mais en fait c'est une goutte d'eau dans l'augmentation du niveau des mers, 25 cm. Écoutez un petit peu la comparaison faite par Romain Millan.
Si tout l'Antarctique fond, c'est une augmentation du niveau des mers de 57 mètres. De la même manière, le Groenland, si tout le Groenland fond, c'est 7 mètres d'élévation du niveau des mers. Donc vraiment, sur le long terme, les principaux contributeurs au niveau des mers, ça va être l'Antarctique et le Groenland.
Qui ne sont pas des glaciers, je le rappelle, on confond souvent, et Mathieu Morlighem le confirme.
Il y a une confusion un petit peu entre les glaciers de montagne et les calottes polaires, qui sont le Groenland et l'Antarctique, qui sont vraiment les gros monstres quand on parle du niveau des mers. Donc je pense qu'il y a une confusion au niveau du grand public qui est que ça pourrait apparaître comme une bonne nouvelle, 20% de moins, mais c'est rien du tout par rapport à l'augmentation qu'on estime à au moins un mètre d'ici la fin du siècle.
Voilà, donc ces glaciers moins volumineux qu'on ne le croyait, c'est juste, je le répète, une mauvaise nouvelle pour des millions de personnes qui en dépendent. Et désormais, eh bien, il faudrait zoomer encore un petit peu plus pour préciser encore davantage les nouvelles données.
On a besoin de validation de terrain. Et en fait, dans des régions comme l'Himalaya ou les Andes, on a très très peu de données. Donc vraiment, il y a un très gros effort scientifique à faire sur la collecte et le partage de ces données dans ces régions où des millions de personnes dépendent de l'eau de fonte des glaciers.
Donc vous lancez une sorte d'appel en fait.
Oui, en quelque sorte.
Et en attendant, sachez que tous les éléments de l'étude parue dans la revue Nature Géosciences sont publics, bien sûr, et donc à la disposition du reste de la communauté scientifique, et pourquoi pas, de certains gouvernements.
Et c'était Camille Passauvert à réécouter, bien sûr, sur la page de l'émission.
Sylvie Nonni, dans la propagation des idées fausses, tiens, c'est quoi le rôle des États et d'éventuels gouvernements à travers les années ?
Sur la question qui nous a préoccupé, aucun. On n'a pas trouvé d'intervention de l'équivalent de pouvoir public sur la question de la forme de la Terre ou même sur la question de son mouvement. Il y a eu des autorités, par exemple ecclésiastiques, au moment de l'affaire Galilée, qui se sont opposées à la théorie du mouvement de la Terre. Mais concernant la sphéricité de la Terre, on n'a vu aucune intervention. L'intervention que l'on a vue, c'est au milieu du XVIIIe siècle, celle des philosophes des Lumières, le premier d'entre eux, et peut-être même d'Alembert, dans le discours préliminaire de l'Encyclopédie, et ensuite relayé par Voltaire.
Mais voilà, reprend, c'est le fameux voilà. Nom. Hein.
C'est le fameux nom, le fameux
coupable.
C'est lui coupable,
qui a alimenté la fake news.
La faute à Voltaire.
Ouais. La faute à Voltaire.
Exactement. Allez, on revient sur cette affaire de Terre plate et la généalogie d'une idée fausse. C'est aux éditions Les Belles Lettres.
Yeah.
Masque d'or. Le retour de Fishback sur France Inter.
La Terre au carré, le magazine Science et Environnement. Mathieu Vidard et Camille Cronier sur France Inter.
La moitié de la coque a disparu.
Bien. Et maintenant ?
Maintenant, je ne vois que le mât.
Ferme les yeux. Ouvre-les quand je te le dirai. Maintenant.
Il s'est en allé.
Qu'est-ce que tu en déduis ? Elle est ronde, comme ça, toute ronde.
1492 de Ridley Scott avec Christophe Colomb, interprété par Gérard Depardieu. Violaine Giacomoto Chara, puisque vous êtes avec nous pour parler de ce livre La Terre plate, pourquoi la figure de Christophe Colomb vous a intéressé? Qu'est-ce qu'elle représente finalement dans cette saga de la rotondité de la Terre, là, pour le coup?
En fait, c'est un des jalons du mythe de la... nourrissant l'idée que le Moyen-Âge croyait en la Terre plate, parce qu'on a inventé ce mythe, mais on a aussi inventé des héros qui auraient découvert la sphéricité.
Ouais.
Et donc, Christophe Colomb est l'un de ces héros. Alors, d'ailleurs, ce qui est tout à fait frappant, c'est quand on interroge les étudiants ou les collègues, hein, parce que votre interlocuteur, l'auditeur qui signalait qu'il entendait ça en salle des profs a tout à fait raison. On a aussi beaucoup de collègues qui pensent qu'au Moyen-Âge, on croyait que la Terre était plate. Quand on interroge les gens, on dit, mais finalement, qui a découvert que la Terre était sphérique? On nous dit Christophe Colomb, Copernic, Galilée. Donc, une espèce de galaxie de noms comme ça, qui sont parfois séparés quand même par un siècle, ce qui n'est pas tout à fait rien. Et donc, il a fallu, si on pensait que la Terre était plate, il faut nécessairement inventer des héros de la sphéricité. Alors, des héros, parce qu'effectivement, ça va avec un mythe du savant. Alors, on en revient au complotisme et à la dissidence, hein, soit du savant qui se dresse contre l'autorité, donc Galilée ou Copernic. Et donc, le mythe entraîne d'autres mythes. Hein, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vous disent qu'on a brûlé Galilée parce qu'il croyait que la Terre était ronde. Donc, il a eu un procès, mais pas pour ça, et puis on ne l'a pas brûlé.
C'est Giordano Bruno, lui, qui a eu le droit aux flammes.
Giordano Bruno, on l'a brûlé, mais pour d'autres raisons. Ouais. Voilà. Et donc, dans les héros, donc, il y a la figure du savant qui se dresse contre l'autorité ecclésiastique ou étatique. Et puis, il y a aussi la figure de l'aventurier, finalement, et du fils du peuple, de celui qui se serait élevé par ses propres moyens. Et on en revient à cette idée de l'opposition à un savoir institutionnalisé, donc le marin, supposé être un homme simple et pas très éduqué, ce qui est en fait faux, hein, parce que Christophe Colomb n'était pas un fils de paysan sorti de rien, mais il y a cette idée, voyez, du héros populaire qui, par le seul génie inné de son cerveau, arrive à comprendre des choses que même les plus officiels des officiels n'arrivent pas à comprendre. Et donc on retombe toujours sur ce mécanisme qu'on peut effectivement raccrocher un peu au complotisme d'aujourd'hui, qui est cette idée d'un savoir officiel faux, et donc contre ça, des héros spontanés qui se dressent de même. Et Colomb, c'est tout à fait ça. Puis donc, en plus, on confond. Il y a le voyage qui a permis la découverte de l'Amérique, qui était censé être un voyage vers les Indes. On dit que ça lui a servi à prouver que la Terre était ronde, alors que non, il ne serait jamais parti. Il n'est pas fou, hein. Il ne serait jamais parti s'il n'avait pas su d'avance que la Terre était parfaitement sphérique. Donc il y a aussi une confusion, voilà. Mais ça a permis la création de ce mythe du héros de la sphéricité.
Sylvie Noni, avant de passer aux questions, qui utilise le mythe de Christophe Colomb, justement? C'est à l'époque des Lumières qu'on s'en sert?
Oui, Voltaire, dans un texte, dans son dictionnaire philosophique, effectivement, affirme péremptoirement que tous les pères de l'Église regardaient la Terre comme plate, avaient défendu une lecture littérale de la Bible, qui ne dit pas exactement que la Terre est plate, comme le précisait Violaine, mais voilà, étendait cela, et affirmant que saint Augustin, notamment, qui est souvent la cible de Voltaire, l'avait défendu. Or, saint Augustin considérait que la Terre était ronde, c'est l'existence même de personnes habitant aux antipodes qu'il mettait en doute. Et Voltaire termine son article, là je l'ai sous les yeux, en disant qu'il a fallu attendre Colomb, Amerigo Vespucci et Magellan, qui eux ne craignirent point l'excommunication des évêques.
Voilà. Les héros marins.
Voilà, et la Terre a pu reprendre sa rondeur.
Rémi demande s'il y a eu, sur l'application France Inter, s'il y a eu d'autres croyances au sujet de la forme de la Terre. Est-ce qu'on croyait, je ne sais pas, qu'elle était penchée.
Ah oui, il y a eu. Mais alors,
est-ce qu'il y a eu d'autres théories sur la forme de la Terre,
ouais. À l'époque pré-socratique, oui, il y a eu beaucoup de théories. Il y a eu Thalès qui l'imaginait reposant sur l'eau. C'est Aristote qui mentionne cette thèse et puis qui la combat en disant que l'eau est forcément au-dessus de la Terre, donc dans la hiérarchie des éléments qu'il défend. Il y a eu Démocrite qui a imaginé qu'elle était à la fois plate, mais en forme d'un tambourin, c'est-à-dire une espèce de cuvette, puisqu'il fallait expliquer la variation, effectivement, du jour et de la nuit. Il y a eu des gens qui ont défendu l'idée qu'elle reposait sur des colonnes. Enfin, mais ça, tout ça, ce sont des hypothèses et des textes qui ont eu lieu dans l'Antiquité avant Platon et Socrate. Il y a, il faut le dire pour les auditeurs, certains le savent peut-être, un petit interlude dans l'église d'Orient, ouais, près d'Antioche, où effectivement quelques ecclésiastiques ont défendu, donc de l'église d'Orient, de cette église Théodore de Mopsueste le premier, donc c'est vers le 5e, 6e siècle, qui ont défendu une lecture ultra-littéraliste en donnant à la terre la forme du tabernacle que décrit Moïse en redescendant du Sinaï. Et donc ils ont défendu cette thèse, mais il faut dire que, un, ils écrivaient ces gens-là en grec, et que jamais leur thèse n'a pu être diffusée dans le Moyen-Âge latin, et deux, qu'ils ont été frappés par l'Église, par deux conciles qui ont condamné ce courant qu'on appelle le courant nestorien, et qui n'a pas eu du tout de postérité.
Donc la Terre ronde se porte bien, finalement.
Maintenant,
même ceux qui ont voulu s'y opposer à cette époque très, très lointaine n'y sont pas parvenus. On va écouter un petit reportage de la RTS en février 2020. Il est réalisé par Christelle Gem, qui a étudié justement les platistes américains. On va voir le rôle de la religion, très important.
Rob Skiba est une figure de premier plan dans la communauté de la Terre plate. Je l'ai vu à une conférence sur la parole divine il y a 5 ans. Et un an après, j'ai appris qu'il était devenu platiste et j'ai été interloqué. Je me suis dit, Rob, que s'est-il passé? Et je l'ai rayé de mes contacts. Quand j'ai eu du temps libre au bureau, je me suis dit, bon, il faut quand même que je regarde ça de plus près. J'ai fait ma petite enquête et je me suis dit, ça c'est intéressant. Ils expliquent pourquoi nous voyons des choses si éloignées de nous, des choses qu'on ne devrait pas voir parce qu'elles sont derrière la courbe de la Terre, mais que nous voyons encore et encore.
Des expériences de terrain avant tout, mais la religion n'est pas loin.
Je suis chrétien depuis 35 ans. J'ai examiné les preuves d'abord, et ensuite j'ai découvert les textes et les versets de la Bible qui prouvent que la Terre est plate.
Voilà, Violaine Giacomo-Chara, un petit commentaire parce que finalement cette idée de la Terre plate, elle puise toujours ses racines au fond dans la religion encore aujourd'hui. Hein.
Et alors moi je suis toujours curieuse de savoir, enfin je voudrais bien voir dans quelle traduction ils lisent la Bible et quels sont les versets en question, parce que il n'y a pas de verset de la Bible, autant que je sache. Alors je ne la lis pas tous les soirs comme les fondamentalistes américains, certes, mais il n'y a pas de verset de la Bible qui prouve que la Terre est plate. Alors ce qui est intéressant aussi dans ce reportage, c'est la mention de l'observation, c'est-à-dire on voit très très loin et on voit que c'est plat. Alors on en revient au problème scientifique de fond, c'est l'espèce de naïveté incroyable de gens qui s'imaginent que la Terre est à leur mesure, enfin qui n'imaginent pas les proportions que ça peut avoir. Donc c'est vraiment ça reste quand même très 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 étonnant, parce que c'est à la fois une sorte de nombrilisme extraordinaire finalement, puisque ils ne voient que ce qui est juste autour d'eux. Et puis, il y a cette question du fondamentalisme religieux qui me laisse perplexe, parce que quand on étudie le texte biblique, qu'on l'étudie de manière scientifique, je veux dire qu'on le lit avec un regard de chercheur, et qu'on lit par ailleurs la tradition théologique des pères de l'Église, nulle part il n'y a de démonstration de la platitude. Donc, c'est en plus une idée religieuse fondamentaliste qui s'appuie sur une fake news religieuse. Il a fallu fonder d'abord un mythe d'une église croyant à la Terre plate. C'est quand même très très perturbant.
Ouais. Sylvie Noni, d'ailleurs, ce qui est amusant avec Christophe Colomb aussi, cette figure qui a été utilisée pour alimenter la fake news, donc au siècle des Lumières, parce qu'on vraiment, on chevauche tous les siècles dans votre histoire, c'est que c'est une histoire aussi des protestants contre les catholiques. Hein.
Tout à fait, parce qu'après Voltaire, donc au début du 19e siècle, 1900, 1800, 1828, il y a un écrivain américain, Washington Irving, qui produit une histoire de la vie et des voyages de Christophe Colomb, et qui va faire un gros travail d'enquête, puisqu'il va s'exiler 3 ans dans les archives de Madrid, et donc travailler sur les ressources dont ils ont disposé à Madrid à ce moment-là, mais qui va inventer de toutes pièces une scène, je pense que tout le monde va la reconnaître quand je la décris, c'est la scène du fameux conseil ou concile de Salamanque, qui était bien décrite par contre dans le film de Ridley Scott, 1492, ouais. Où Christophe Colomb aurait dû affronter des docteurs de l'Église complètement abrutis, idiots, et lui opposant à son projet de partir faire la route des Indes, lui opposant des thèses des pères de l'Église démontrant que la Terre était plate et qu'il ne pourrait, il risquerait de tomber aux confins de la route occidentale sur les mers. Et donc, on a inventé de toutes pièces cette scène pour laquelle il n'y a pas d'archives qui peuvent en témoigner. Et les seules archives qu'il y a montrent que, en fait, Christophe Colomb a eu à argumenter pour dire que son voyage n'était pas trop long, et il a discuté des mesures existantes de la circonférence. Il y avait des mesures faites notamment par les Arabes qui circulaient depuis le 9e siècle, qui avaient été reprises dans des encyclopédies, et donc il fallait qu'il prouve qu'il y avait une chance que ces caravelles reviennent et qu'on pouvait investir dans son projet, sans trop de risques.
Il y avait énormément d'argent qui était en jeu, évidemment, pour les États, enfin l'État qui l'envoyait en voyage. On revient vers vous dans un instant, il y a encore quelques questions pour vous pour évoquer la Terre plate.
Revolution. We are spirits in the material world. Our spirits in the material world.
Spirits in the Material World. C'était Police sur France Inter et Thierry Dupin qui signe la programmation musicale, bien sûr, de l'émission. Ça s'appelle La Terre plate, généalogie du nid des fosses. Ça paraît aux belles lettres. Et nous sommes avec ces deux autrices, Sylvie Noni et Violaine Giacomotto-Chara. Et Camille, quelques questions.
Christian nous demande par mail, Sylvie Noni, si les Égyptiens, les Incas ou les Mayas croyaient à la Terre ronde ou plate.
Eh bien, je suis déçu de pouvoir lui répondre parce que nous n'avons pas du tout étudié ces questions et on n'a pas de traces, à mon avis, beaucoup de théories de ce côté-là. Et ça me permet de préciser que lorsque nous disons au Moyen-Âge, on pensait que la Terre était ronde, nous parlons d'une aire géographique bien précise qui se situe en Europe, autour de la Méditerranée.
Pardon, on croyait que la Terre était plate, non ?
Pardon, à chaque fois, on croyait que la Terre était ronde.
Plate. Au Moyen-Âge.
Oui, alors nous dénonçons cette thèse, mais nous parlons donc de l'aire géographique qui se situe autour de la Méditerranée, savoir l'Europe, l'Afrique du Nord, l'Égypte. Nous avons fait donc tout un chapitre sur le monde arabe et une petite incursion dans le monde indien qui communique avec le monde arabe et qui lui aussi pensait que la Terre était sphérique. Il n'y a aucun doute sur la question. Les astrologues et les astronomes indiens le pensaient, mais nous cantonnons à cette aire géographique.
Donc les Égyptiens, vous pouvez répondre, mais pas les Incas, les Mayas.
Alors, pas les Égyptiens dont parle Christian, je pense qu'il parle des Égyptiens de l'époque des pharaons, pour lesquels nous n'avons pas de thèse et de théorie.
Violaine Giacomotto-Chara, vous citez Umberto Eco dans ce livre à plusieurs reprises, parce qu'il s'est intéressé avant vous finalement à ce mythe et à la force du faux. Ça aussi c'est un concept qui est hyper intéressant hein, quand on parle de fake news et de théories comme ça. Il disait Umberto Eco, le premier devoir de l'homme de culture est celui de se tenir en alerte pour réécrire chaque jour l'encyclopédie. Est-ce que finalement c'est pas aussi l'idée que vous avez eue avec cet ouvrage, en mettant votre petite pierre?
Oui, c'est exactement ça. Et puis, essayer de chaque jour de corriger les idées fausses auxquelles on est confronté. Dans le livre, on en mentionne d'autres, hein, parce qu'il y a toute une mythologie d'un Moyen-Âge obscur qui se traduit aussi par d'autres mythes. Hein, les femmes n'avaient pas d'âme, la dissection était interdite, etc. Et justement, ce qu'on essaie de faire, c'est aussi de faire que nos lecteurs se transforment en gardien de la vérité, enfin en chercheur de la vérité, soient eux-mêmes vigilants. Donc l'idée, c'était justement de les conduire à avoir ce geste que décrit Umberto Eco, c'est-à-dire de veiller quotidiennement à ne pas se laisser emporter par la force du faux, parce qu'effectivement, le mensonge est plus facile, plus plaisant, plus confortable.
Avec un petit goût de griffe pour le siècle des Lumières quand même, Sylvie Noni, hein, qu'on n'a jamais touché. Alors là, bim.
Oui, tout à fait.
Finalement, fabricant de fake news, Voltaire.
Voilà. Mais on peut aussi accuser les 250 ans qui ont suivi et qui ont continué à propager ce mythe.
Et c'est l'objet donc de votre ouvrage aux belles lettres, La Terre plate. Merci à vous d'être venu nous en parler. Merci aux équipes de France Bleu Gironde à Bordeaux pour ce duplex. Demain, rediffusion de La Terre au carré du 15 février dernier consacrée aux canicules.